Canu Info du vendredi. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu. C'est l'heure des Canu Info du vendredi. On est vendredi 17 avril et il est 19h.
Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Dans ces Canu Info, on va écouter un interview d'une membre du CA du planning familial sur le droit à l'IVG et les violences faites aux femmes pendant le confinement. On va parler d'une décision du tribunal administratif qui ordonne la fermeture du centre de rétention de Vincennes. On va écouter un reportage sur les travailleurs et travailleuses détachés en milieu agricole. On va ensuite passer à la rubrique nucléaire pour parler d'incendie. Et à l'international, on vous parlera du Portugal qui régularise temporairement les personnes étrangères. Et on écoutera les chroniques irakiennes. Mais on va tout d'abord commencer par un appel à manifester au balcon ce soir pour la journée internationale des luttes paysannes, qui est aujourd'hui le 17 avril. Vous avez encore le temps, en écoutant bien sûr notre émission, de préparer une super bonne drôle affichée à votre balcon pour 20h. Bonne écoute!
Avril, journée internationale des luttes paysannes, restez plutôt chez vous, mais pas en silence. Depuis l'assassinat en 1996 de 19 paysans et paysannes sans terre au Brésil, sur ordre de propriétaires, le 17 avril est la journée internationale des luttes paysannes, à l'appel de la Via Campesina.
Avec plus de 200 millions de membres, la Via Campesina est certainement la plus importante internationale de travailleurs et travailleuses actives dans le monde aujourd'hui. Elle porte comme base fondamentale la lutte contre le capitalisme, l'agro-business et le patriarcat, et défend l'agroécologie, l'accès à la terre, à l'eau, aux semences, les droits des paysans et paysannes, la justice climatique et environnementale, et la solidarité avec les migrants, migrantes et saisonniers, saisonnières. Elle rassemble des organisations paysannes, mais aussi de salariés agricoles, de pêcheurs, d'indigènes.
D'habitude, le 17 avril est l'occasion de rappeler l'importance de ces luttes pour l'ensemble des populations par des actions d'occupation, des rassemblements. Cette année, la moitié du monde est plus ou moins confinée. Il n'y aura donc pas d'action de ce type, mais il y a quand même un appel à mobilisation pour rappeler cette année plus que jamais l'importance des luttes paysannes et de la souveraineté alimentaire.
La situation des classes ouvrières urbaines et rurales appauvries est devenue plus précaire avec la propagation du Covid-19 et les retombées économiques qui en découlent. Par conséquent, les peuples du monde doivent saisir ce moment et se battre pour construire une solidarité et des alliances de classe entre les zones rurales et urbaines.
Comme nous l'avons fait il y a 24 ans dans l'Eldorado dos Carajas, d'une seule voix de résistance et en maintenant vivante notre longue histoire de lutte, nous, les paysans et paysannes, les indigènes, les pasteurs, les pêcheurs, les travailleurs et travailleuses agricoles, les migrants, migrantes, les personnes racialement opprimées et la classe ouvrière organisée, dénonçons l'érosion de nos droits en tant que travailleurs et travailleuses, de notre droit à la santé et à l'éducation. Nous nous rassemblons pour condamner la violence, la militarisation et l'oppression systématique dont sont victimes nos peuples et l'érosion constante des principes démocratiques.
Cette pandémie nous rappelle la nécessité de disposer de systèmes de santé publique solides qui ont été systématiquement saccagés au fil des années par certains gouvernements en faveur de la privatisation. Elle a également révélé le vrai visage des profiteurs, les entreprises agroalimentaires, les sociétés pharmaceutiques et autres sociétés transnationales à la recherche d'opportunités commerciales en ces temps difficiles.
Pendant ce temps, des millions d'entre nous, petits producteurs, productrices alimentaires, continuent à produire des aliments et à nourrir la population, garantissant l'approvisionnement alimentaire national et la souveraineté alimentaire. Nous continuons à le faire, même en quarantaine, dans un contexte de frontières fermées, de couvre-feu, en respectant la biodiversité et par une production agroécologique.
Nous ne voulons pas de mesures économiques qui profitent aux élites comme elles l'ont fait dans le passé en renflouant les banques et les entreprises pour sauver l'économie. Nous demandons justice pour la paysannerie et les secteurs opprimés du monde. En ce 17 avril 2020, nous appelons nos membres et alliés à être vigilants et vigilantes contre toutes sortes d'opportunismes dans cette crise globale.
Restez chez vous, mais pas en silence. Depuis vos fermes, vos champs ou vos balcons, faites donc tout ce qui vous semblera nécessaire pour soutenir et visibiliser les luttes paysannes. Vendredi 17 avril et les jours qui précèdent. Vous retrouverez plus d'informations sur le blog des paysans et paysannes dans la lutte des classes, blog.radiocanu.org/ Lutte Paysanne. Vous pouvez aussi transmettre vos actions à Lutte Paysanne, tout attaché au pluriel, @riseup.net.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Actu féministe. Canu Info du vendredi.
Je m'appelle Marion, je suis à la fois militante à l'association du planning familial du Rhône et j'ai une autre casquette, c'est que en tant que salariée, je travaille dans une structure qui accompagne les femmes victimes de violences, tout type de violences. Du coup, je peux avoir deux regards à la fois de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut voir au niveau du planning, mais aussi dans la structure où je bosse. Alors sur au niveau du planning familial, ce qui a été décidé là dès le début un peu du confinement, c'est d'essayer de maintenir au maximum les permanences téléphoniques, de pouvoir répondre et surtout de travailler aussi sur des orientations ou sur pouvoir prendre en charge des urgences un peu gynéco ou d'orienter vers des médecins, des sages-femmes avec lesquels on pouvait bosser pour que du coup il n'y ait pas de soucis pour les femmes pendant la période de confinement, mais aussi surtout de faire en sorte qu'on puisse permettre au personnel de santé, notamment des hôpitaux, de pouvoir pas être submergé non plus et qu'on puisse aussi prendre nous notre part du boulot et en tout cas que les femmes puissent y répondre. Ce qu'on peut voir un peu, c'est que déjà au niveau du numéro vert qui est porté là plutôt par département, des infos qu'on a au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a plus d'appels que d'habitude. Donc ça montre bien qu'il y avait un vrai intérêt de pouvoir maintenir cette activité-là sur toutes les questions de sexualité, de contraception et de violence notamment aussi. Sur plutôt l'état de l'IVG, ce qu'on se rend compte pour l'instant, c'est qu'on n'est pas en difficulté dans les grandes lignes, on va dire, sur le Rhône. Après, on voit des dysfonctionnements, mais aussi des dysfonctionnements ou des choses qui n'étaient pas claires, qui peuvent du coup être encore toujours pas claires pendant la période de confinement. En tout cas, il y a une vraie volonté d'être vigilante et donc du coup d'appeler toutes les semaines pour savoir où ça en est. Quels sont les délais et de poser régulièrement des questions. Dans ce qu'on a pu voir, c'est que malheureusement, la volonté de certaines sénatrices pour allonger les délais légaux pour avorter en France là, à la mi-mars n'a pas été votée. Le ministre de la Santé a même rétorqué qu'il ne voyait pas bien le lien entre la pandémie, la saturation des hôpitaux publics et la restriction du droit à l'avortement. À la limite, la seule bonne nouvelle, et elle est hyper récente, c'est qu'on rallonge les délais pour l'IVG médicamenteuse en ville. La grande question, justement, ça va être de savoir si les médecins ou les sages-femmes vont jouer le jeu. Pour certains médecins, je pense, le fait de se dire qu'il y a plus de risques et c'est mieux quand c'est fait à l'hôpital. Je pense qu'on aura quand même des volontaires. Comme à chaque fois, ils ne seront pas majoritaires, c'est sûr. Et aussi, il faut que les hôpitaux acceptent de pouvoir élargir les délais pour les centres de santé. Nous, par exemple, au planning, on pourrait rallonger les délais. Pour l'instant, c'est en cours de négociation et les premiers échos qu'on a, c'est qu'ils ne sont pas très favorables au fait d'élargir les délais, sans forcément beaucoup d'argumentaires par ailleurs. Je pense que la seule inquiétude qu'ils ont, qui est légitime, mais qui en même temps concerne des situations assez limitées à mon sens, et de se dire que si on rallonge les délais, il y a peut-être plus de risques, notamment d'hémorragie. Et donc du coup, c'est des femmes qui vont devoir se rendre en urgence à l'hôpital, et notamment aux urgences. Et on sait que vu l'actualité de la pandémie, ça n'aide pas forcément les hôpitaux. Mais je pense que ça ne touche pas forcément beaucoup de personnes. Et ce n'est pas faire confiance aux professionnels qui vont d'abord évaluer la situation de la personne. C'est quand même étudier la situation des femmes, voir si c'est cohérent et pertinent pour elles. Et si elles le souhaitent, si elles ne le souhaitent pas, ben on continuera à être plutôt sur de l'aspiration. En France, on a dit que pour l'instant, sur l'IVG, on n'avait pas trop de difficultés, mais à mon avis, on va bientôt y avoir. Et sur les retours qu'on a pu avoir de femmes qui vont par exemple à l'étranger, parce que pour les délais, les hors-délais en France, ça passe encore, les femmes peuvent passer les frontières avec des autorisations. Par contre, c'est compliqué. Il faut passer à plusieurs reprises, à des heures différentes, et ça dépend des personnes qui sont à la douane. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne encore très longtemps. on s'aperçoit que la période de confinement est l'occasion des rétrogrades pour limiter le droit à l'avortement. Aux États-Unis, il y a 5 États qui en ont profité pour supprimer l'IVG en disant que c'était pas des actes nécessaires et urgents, donc du coup, c'est pas la peine de le maintenir. L'Italie, on sait déjà que c'est hyper compliqué, puisqu'on a 68% des gynécologues qui utilisent l'objection de conscience. Mais là, maintenant, sur les 5 établissements, qui est plutôt en Lombardie, il n'y a qu'un seul qui assure les avortements sur les 5. Puis la Pologne, c'est qu'ils ont quand même réussi à se dire on va profiter du confinement pour faire réexaminer le projet de loi qui supprime l'IVG, qui avait heureusement été suspendu en 2016 et 2017 vu la mobilisation des Polonaises. Et du coup, en période de confinement, ils nous ressortent le projet pour interdire l'avortement. Alors, moi, j'ai vu là depuis aujourd'hui, et je trouve ça assez chouette, c'est que les Polonaises ont quand même réussi à trouver un moyen pour se mobiliser. Donc, il y a à la fois une pétition, mais il y a quelques Polonaises qui sont sorties avec des pancartes et qui sont restées dans les coins de rue pour avoir une visibilité sur la question. Alors, je crois que globalement, le confinement, on est un peu les grandes perdantes, mais j'aurais envie de dire, comme c'est à peu près toute l'année, période exceptionnelle encore plus. Là où je pense qu'on est perdante, c'est sur la question du chômage partiel ou des arrêts pour garde d'enfants, où pour le coup, si les employeurs jouent pas le jeu, il y a des pertes de revenus. La charge mentale et la continuité pédagogique, elle est déjà faite en majorité par les femmes le reste du temps. Donc, j'aurais envie de dire, malheureusement, pas beaucoup de changements, mais pour le coup, moins d'espace pour respirer. Et puis après, je pense qu'on va avoir des répercussions quand les gens vont sortir. Et après, sur la question des violences, être confiné avec son auteur, c'est la pire chose qu'il pouvait y avoir, parce que si celui-ci ne travaille pas, ça veut dire 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec son auteur de violence. Alors, sur la question des violences, un peu l'analyse qu'on a pour l'instant, c'est qu'on trouvait un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on avait les chiffres qui étaient annoncés d'intervention, notamment du 17, qui annonçait une augmentation de 30% de sollicitations pour violences conjugales. Ce qu'on nie pas sur les interventions, en effet, il y a une forte augmentation. Pareil, a priori, au niveau du 15. Et on n'avait pas forcément cette répercussion sur les associations spécialisées ou identifiées sur les violences au tout début du confinement. Là, depuis la semaine dernière, on a une augmentation des appels. On a ouvert quand même un centre d'hébergement temporaire avec 60 places pour femmes victimes de violences, seules ou avec enfants, ce qui permet d'avoir des solutions un peu plus importantes en termes d'hébergement. On sait que le gouvernement actuel est surfe sur énormément de com. Donc voilà, il y a eu pas mal de com qui ont été avancées. Alors avec des choses qui sont intéressantes, avec des trucs où on a moins de pertinence. Mais par exemple, typiquement les choses sur ce qui a été mis en place sur les pharmacies. Nous, on trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça permet que les femmes qui sont victimes de violences, qui peuvent pas appeler, de pouvoir aller en pharmacie, demander un téléphone, c'est super. Autant faut-il outiller les pharmaciens et les pharmaciennes qui, pour le coup, c'est pas le boulot d'accueillir des femmes victimes de violences, et qu'il y a des femmes victimes qui vont pouvoir se pointer chez eux et chez elles, qui veulent pas qu'ils appellent les flics. Elles veulent simplement pouvoir appeler une structure ou se poser. Donc, du coup, il y a quand même des notions d'accueil qu'il faut poser. Et donc, du coup, dans la com, mais qui a fonctionné, c'est les centres d'hébergement qui ont ouvert. Nous, l'objectif, c'est de montrer qu'il va être plein. Et que s'il est plein, ça veut dire qu'on a besoin de ces places. Hors période de confinement, de toute façon, on a besoin de plus de places. L'analyse de l'augmentation des violences en période de confinement, elle est compliquée et je pense qu'on pourra affiner que plus tard. Mais quelques pistes, moi, que je pense dans cette hausse, c'est que la première, la période de confinement, elle s'est enchaînée après un 8 mars et toute une communication du gouvernement sur les violences. Donc ça a fait aussi un peu son chemin. Le deuxième, c'est que je pense qu'il y a eu des alertes de toutes les associations, donc tout ce qui est parquet, police, gendarmerie, ont une vigilance accrue parce qu'ils ont des consignes d'être intraitables sur la question. La troisième chose que je vois en piste un peu d'analyse, c'est qu'il y a des femmes qui supportaient jusqu'à présent les violences, mais que là, du coup, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et que du coup, là, il y a un truc où juste, c'est pas possible. Avec en parallèle du confinement, quand même de la communication qui font que ça peut susciter le fait d'appeler. Et globalement, moi, je trouve quand même hallucinant, c'est que j'ai regardé un peu les chiffres au niveau du monde. Concrètement, on a des hausses de partout. C'est-à-dire que tous les pays qui appliquent le confinement et qui sont touchés par la pandémie sont touchés par l'augmentation des violences intrafamiliales et conjugales. Et que malheureusement, sur les féminicides en France, nous en sommes à 8 féminicides depuis le début du confinement. Après, ce qu'on se dit clairement dans les associations spécialisées, c'est que la grosse vague d'appels, de prise en charge, elle arrivera au moment du déconfinement.
Et on reste dans la rubrique féministe pour faire un détour en Italie, où la crise sanitaire implique pour beaucoup de femmes l'impossibilité de recourir légalement à l'IVG. Il faut savoir qu'en temps normal, il n'est pas simple d'avorter en Italie. Les soignants et soignantes ont le droit de faire ce qu'on appelle une objection de conscience, c'est-à-dire d'invoquer leurs croyances chrétiennes pour ne pas pratiquer les IVG. Si, en théorie, le service doit être garanti par chaque hôpital, dans la réalité, seulement le 64% des hôpitaux italiens ont des unités où l'on peut pratiquer des IVG, et dans ceux-ci, le 70% des médecins et anesthésistes sont objecteurs. Depuis le début de l'épidémie due au coronavirus, la situation pour les femmes voulant avorter est devenue dramatique, au point qu'on ne peut plus vraiment dire que le droit de recourir à un IVG soit garanti en Italie en ce moment. Malgré le fait que le ministre de la Santé ait mentionné les IVG dans la liste d'interventions qui ne peuvent pas être reportées pendant la crise, beaucoup de structures ont fait comme s'il s'agissait d'opérations de routine et ont fermé les unités. Dans le Nord, le plus touché par l'épidémie, un grand nombre d'unités où l'on pratique l'IVG ont été destinées aux patients malades de Covid. Les anesthésistes peu nombreux qui pratiquent les IVG ont été déplacés en réanimation auprès des malades Covid. Dans le Sud, la situation n'est pas meilleure. Actuellement, il n'y aurait aucune structure qui pratique l'IVG dans plusieurs régions. Les témoignages sont celles de femmes obligées à traverser l'Italie pour trouver un hôpital qui accepte de les prendre en charge avant la date butoir de 12 semaines. Il est aussi très compliqué d'avoir des informations car les centres de planification sont fermés. Pour ces raisons, le réseau italien ProChoice et d'autres associations ont écrit une lettre au président du Conseil des ministres, au ministre de la Santé et à l'Agence italienne du médicament pour demander des mesures urgentes pour garantir le droit à l'IVG sur tout le territoire italien.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Révolution ! Révolution ! Révolution !
Je demande à ceux qui n'ont pas de travail, qui ne sont même pas au chômage partiel, ceux qui n'ont plus du tout d'activité, ou ceux qui peuvent être au chômage partiel, de dire si vous voulez faire un acte de solidarité, allons dans les champs, ils seront salariés par les agriculteurs, ceux qui n'ont plein d'emploi.
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. 24 mars.
Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est pas le problème de payer la main-d'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Et ces agriculteurs-là, qui vont produire la nourriture équilibrée de demain, il faut que les travaux des champs se fassent aujourd'hui. Il faut que l'armée de l'ombre des Françaises et des Français, qui sont prêts à faire de la solidarité, qui sont prêts à avancer, il faut que ces gens-là aillent aider. Les agriculteurs les accueilleront très très bien, à condition tout simplement d'avoir envie de bosser, d'avoir envie de travailler, et de se dire ce que je fais là, je le fais pas pour moi, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma mère, je le fais pour telle ou telle personne, parce qu'elle pourra avoir des salades, des poireaux, des radis, et puis il y a des aménagements pour faire en sorte qu'on puisse travailler un peu plus la nuit, peut-être le dimanche dans certaines entreprises, que les camions puissent rouler, que le chauffeur puisse amener la nourriture, puisse amener les palettes pour les livrer dans les grandes surfaces. C'est la chaîne alimentaire dans son ensemble qui doit fonctionner.
Le sujet qu'on va parler, c'est comment ça se passe dans le monde agricole en dehors de ce qu'on appelle du coup la paysannerie, et comment ça se fait en fait qu'il y a des gens qui sont dans les champs de tout un tas de nationalités différentes, comment ils sont arrivés ici, et puis comment ça se fait que la semaine dernière, du coup, avec cette histoire du coronavirus, tout d'un coup, il y a eu un grand appel national à venir aider du coup les agriculteurs et agricultrices aux besoins en gros de main-d'œuvre qu'il y aurait pour pouvoir remplacer ces personnes qui frontières bloquées, en fait, ne pourraient pas venir. Ça pose plein de questions de qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui viennent de l'étranger, comment ils sont pris en compte habituellement, est-ce qu'ils sont toujours là encore à l'heure actuelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faut que je te dise en fait pourquoi du coup aussi, parce que je me sens concerné, ou alors pourquoi du coup je parle de tout ça, et ça va te donner un petit peu une petite idée à ta question.
Mayday, rencontre.
Alors moi c'est Clément, en fait je bosse dans le monde agricole depuis quelques années, en tant qu'ouvrier agricole, et puis un peu à l'heure actuelle avec un collectif du coup agricole. Nous ici là on est dans la région PACA, tout le Val de Durance, qui va après dans la plaine de la Croix vers Arles, et ainsi de suite, donc on est à cheval entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Le système agro-industriel, pour qu'il puisse marcher, c'est une main-d'œuvre à bas coût, une technicité du coup au niveau de comment on produit des légumes ou n'importe quelle denrée alimentaire qui est très proche du système industriel. Par exemple, pour la récolte des fraises dont le gouvernement parlait il y a 2 semaines, elle est cultivée du coup en hors-sol, sur des tapis, sur différents systèmes en fait qui font qu'il n'y a plus vraiment de lien avec la terre. Hein. On recrée en fait tout un système autour qui permet d'avoir quelque chose toute l'année. Ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, c'est le système agro-industriel en fait. L'ensemble du système agro-industriel, il ne concerne pas que ceux qui bossent dans la terre. C'est aussi tous ceux du coup qui viennent conditionner, qui viennent faire la logistique. Ces agriculteurs qui travaillent avec cette main-d'œuvre-là, principalement, elles fournissent les grandes enseignes du coup de supermarché. C'est quand même par là que ça passe. Après, il y a les marchés d'intérêt national qui font aussi le lien. Donc, le lien entre ces travailleurs-là et ce qui est demandé, c'est juste de pouvoir un peu sauver le système agro-industriel qui est à flux tendu. Mais juste, en fait, il faut continuer à faire tourner la machine. C'est aussi ça, c'est un truc économique, hein. C'est vraiment du pognon.
C'est quoi le profil de l'exploitant agro-industriel, s'il en existe un ?
Les profils sont très différents. T'en as qui font du bio, t'en as qui font pas de bio. T'en as du coup que c'est des... Bon, c'est vraiment des gros salauds de base, hein. Suite à la guerre d'Algérie, tous les colons qui étaient là-bas sont revenus en France. Une bonne partie d'entre eux qui y bossaient dans l'agricole ont continué à bosser dans l'agricole. Une minorité d'eux se sont retrouvés dans la Drôme à faire de l'arboriculture. Et ces gens-là ont redescendu en fait tout le Rhône pour se stabiliser dans la plaine de la Croix. En gros, ceux qu'on appelle les Dromois dans la plaine de la Croix, c'est eux qui ont les énormes exploitations de pêche, abricots, toutes ces cultures-là. Si tu prends l'autoroute entre Arles et Marseille, là, à cette période-là, en plus, elles sont en floraison de ouf, là, les pêchers, c'est gigantesque, c'est des couleurs magnifiques. Et derrière les couleurs, c'est souvent vraiment très très sale, quoi. Je peux pas me dire qu'il n'y a pas une continuité, en fait, postcoloniale sur comment ces gens-là, ils agissent à l'heure actuelle. Les mots, l'appropriation du corps par les agriculteurs, plus tous ces mécanismes-là qui ont vraiment du coup créé de la servitude, t'as l'impression des fois dans un tas de témoignages qu'il y a juste une continuité horrible de tous ces schémas-là et qui font que t'as envie de mettre un gros coup de pied dedans, quoi. Enfin, c'est pas possible en fait, tu vois. Et en même temps, t'as une autre personne à côté, c'est un peu l'agriculteur ou l'agricultrice, pas lambda, mais qui se retrouve à un moment donné à avoir un pic de production, à embaucher des salariés détachés comme ça, et puis qui fait de la merde, parce qu'en fait, il est en situation de pouvoir, ou alors qu'il n'a pas eu toutes les infos qu'il fallait, et ainsi de suite.
Concernant les travailleurs détachés,
globalement aujourd'hui en France ceux qui sont employés ces dernières années, ils viennent d'où et quand ils sont en France, ils vivent dans quelles conditions, ils vivent où, pour combien de temps?
Alors ils viennent d'où? Au niveau de l'élevage, on retrouve pas mal de gens qui viennent d'Europe centrale de l'Est, Roumanie, Bulgarie, qui bossent dans les abattoirs, sur la région Bretagne par exemple, on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont de ces communautés-là là-bas, beaucoup de gens qui viennent de Pologne aussi. Et les travailleurs détachés qui bossent dans les champs en France sont recrutés par des boîtes d'intérim espagnoles. C'est le cas des travailleurs sud-américains ou marocains, car l'Espagne a des accords bilatéraux avec le Maroc.
Pourquoi ce nouveau système qui permet d'aller chercher des travailleurs détachés à l'étranger, il se base sur des agences d'intérim espagnoles et pourquoi pas des agences d'intérim françaises? C'est quoi l'intérêt?
La souplesse du droit social espagnol. Les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. En fait, l'Espagne, depuis la chute de Franco, fait partie des pays, enfin c'est même le pays du coup en Europe qui a basé son développement économique sur l'agriculture et le tourisme. C'est un pays qui se retrouve en très bonne place pour pouvoir mettre à disposition des travailleurs pour d'autres pays, quoi. Tu sais, moi je sais pas si t'as entendu ça, mais c'est quand même toujours l'argument de l'agriculteur un peu de base qui va te dire, de toute façon, en fait, voilà, moi je suis obligé d'embaucher par les ETT, là, les entreprises de travail détachées, parce que je trouve personne. Pôle emploi, du coup, il me ramène personne. Et puis en vrai, bon, faut quand même bien le dire que c'est tous des feignants, tu vois. Enfin, on va pas embaucher des gens qui veulent pas faire ce taf-là. Du coup, on va aller embaucher, en fait, des personnes qui, eux, savent vraiment faire le boulot, quoi, tu vois. C'est une connerie, en fait, tout ça. C'est vraiment maquiller la réalité économique, la réalité sociale, voire la réalité politique. C'est profondément raciste aussi des fois, tu vois. C'est juste d'être en capacité de pouvoir avoir un pouvoir sur des personnes en fait qui vont fermer leur gueule quand tu vas leur faire des tâches de merde pendant toute une journée. Le cas le plus typique d'irrégularité par rapport au travail détaché, c'est les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont pas comptées comme heures supplémentaires. Une personne qui va bosser 3 heures ou 4 heures de plus dans sa journée, il ouvre sa gueule, en fait, il va ailleurs, il se casse, tu vois. Mais en gros, ça va jusqu'à l'exploitation, à la servitude et toutes les dérives les plus dégueulasses qu'on peut avoir de la part de patrons sur des salariés, quoi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, ce que je te dis par rapport au déplacement, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans, mais ce qu'on remarque depuis pas mal d'années, il y a beaucoup de gens qui reprennent des boulots en France par le biais de boîtes d'intérim, alors qu'ils habitent en France. Ils restent en France, ils habitent là pendant l'hiver et recontinuent du coup à signer leur contrat. Et eux, leur contrat, il est bien sûr avec un lieu et une date de signature qui est en Espagne, mais il continue à travailler en France. Du coup, quand le gouvernement parle d'un tas de travailleurs détachés qui ne viendraient pas en France, c'est faux, puisqu'il y en a tout un tas qui sont encore ici. Toutes les nouvelles que j'ai eues de la semaine dernière, des copains qui bossent dans les champs en tant que travailleurs détachés, ils disent, bon, il n'y a rien qu'à changer, hein. Nous, on est là, la saison, elle a commencé, il faut bosser. Et en plus, sur tout ce qui est prévention sanitaire, pénibilité, je peux te dire que c'est comme les heures supplémentaires, hein. Fin des années 90-2000, c'était créé dans la région des Bouches-du-Rhône le Codetras, qui était un collectif de défense en fait des travailleurs saisonniers agricoles étrangers. Ce collectif-là, il rassemblait et rassemble toujours des chercheurs, des agriculteurs, des syndicalistes, des personnes d'associations liées aux droits de l'homme, aux droits des étrangers, tout ce qui est droit administratif aussi, sur tout un tas de questions liées à la santé, liées au logement, et ainsi de suite. Et il y a eu quelques grosses batailles qui ont fait que c'est devenu quelque chose d'assez costaud, quoi. Un peu, en France, le gros collectif qui a permis d'aider tous les travailleurs qui étaient vraiment laissés pour compte. Dans les années 2000, ce qui a soulevé le plus de, on va dire, de mobilisation, et puis aussi, du coup, d'arriver à faire des quelque chose, c'est parce que du côté de l'étang de Berre, là, donc juste derrière Marseille, entre derrière la zone du coup pétrolifère là, de Fos et tout ça, là il y a un gros étang avec beaucoup de zones agricoles sous serre. Et dans les années 90, il y avait un énorme ghetto, en gros, quoi. Un de ces endroits-là s'appelait le Gourbi, et c'était des baraquements, quoi, faits de briques et de broc, de bâches et tout ça, quoi. Les gens y vivaient comme ils pouvaient, dans des conditions de merde, avec des conditions sanitaires et d'hygiène pourries, et ainsi de suite. Ça a vachement évolué parce que ça a quand même fait du bruit et qu'on a quand même un peu considéré qu'il fallait faire mieux. Mais c'est soit tu te démerdes et du coup tu bosses plus et tu sors de ce truc-là, soit tu te retrouves vraiment dans des apparts où de plus en plus de campings qui sont loués et c'est un peu des taudis, quoi. Ils sont très invisibilisés, en fait, tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses-là, quoi. C'est assez difficile de faire des contrôles pour l'inspection du travail, de pouvoir vraiment mettre en lumière ça. Pour nous, on va dire, les personnes qui essayons de se mobiliser, c'est difficile parce que d'afficher trop de contacts, donc d'aller chez les personnes, ça les met aussi en fait en danger, quoi. Cette agriculture, elle se nourrit de la flexibilité. Donc nous, notre petit grain de sel du coup qu'on va mettre dedans, l'agriculteur, il va y répondre avec une flexibilité où il va virer les gens, il va rappeler de la boîte d'intérim, et puis il va y avoir des gens qui vont venir les remplacer assez rapidement, tu vois. Qu'est-ce qu'on aura fait avec notre petit grain de sable ou du coup notre coup de pioche dans le mur de ce gars-là, quoi. Qu'on aide ces personnes-là à pouvoir s'auto-organiser suffisamment, mais tant qu'il n'y aura pas la possibilité pour eux de se sortir de cette condition-là, de combattre par eux-mêmes, ça va être difficile, quoi. Moi, je me suis impliqué personnellement sur ce côté-là parce que me limiter du coup à un discours sur la petite paysannerie qui ferait que du bio, qui favoriserait l'autonomie, en mettant de côté tout ce paysage-là agricole qui est complètement sombre, qui est vraiment invisibilisé, c'est pas possible en fait. À partir du moment où le libéralisme il est capable de faire accepter aux pauvres et vraiment aux gens les plus précaires, les plus démunis, des produits de première nécessité qui te nourrissent, qui sont issus de la même exploitation, des gens qui seraient dans les mêmes conditions en fait que toi, je me dis merde, là ça craint. Tu vois, là c'est vraiment dégueulasse en fait. Au niveau de l'agriculture, ça pue, quoi. Tu vois, c'est pas très glorieux hein, ce que je te dis, mais il faut, moi je trouve qu'il faut en avoir conscience, quoi. C'est pas que les petits marchés de produits locaux et tout ça qui sont très bien en soi. Hein, je le dénigre pas. Hein, c'est pas, j'oppose pas du coup les deux. Je dis juste que il faut qu'on arrive à trouver au niveau du combat politique en agriculture quelque chose qui se rassemble, quoi. Je suis pas le premier à le dire. Hein, c'est minoritaire, mais il y en a quand même qui essaient de faire ces liens là, quoi.
Mayday. Tous les mercredis à 18h avec les intérimaires, les chevalangrois et Maria Violenza.
Le rap fait vraiment mesquine, comme un ours polaire sur les bords du Nil. Le shit fait son insoumis, neurotransmetteur.
Alors, on va vous parler maintenant du centre de rétention administrative de Vincennes, la prison pour étrangers qui est à Paris, en région parisienne. Pourquoi ? Parce que de nombreux assos ont saisi le tribunal administratif de Paris pour demander sa fermeture. On en avait parlé ici il y a quelques semaines déjà, le 27 mars, le Conseil d'État avait refusé la fermeture de l'ensemble des centres de rétention administrative de France, mais les assos et les retenus ont continué à se battre, et notamment à Paris, en demandant au tribunal administratif la fermeture de ce seul centre de Vincennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà plusieurs cas de Covid-19 parmi les retenus qui ont été dépistés. Il y en a aussi qui présentent des symptômes, mais qui n'ont pas été dépistés. Je crois qu'il y a aussi une quinzaine de flics du CRA qui ont chopé le Covid. Et voilà, alors... Les assos et les 47 personnes qui étaient encore retenues demandaient la fermeture parce que, bien sûr, ils sont mis en chambre individuelle depuis le début de l'épidémie, mais ça n'empêche pas que, comme de nombreux autres endroits, les sanitaires sont collectifs, les cabines de téléphone aussi, bien sûr. Il y a une seule salle pour les audiences en visioconférence, la salle de vie commune est collective, le réfectoire pour manger, pareil. Alors voilà, le préfet de police en face, il disait non mais tout va bien, on applique les gestes barrières, vous inquiétez pas. En fait, le juge il a dit non, en fait ça va pas, et donc il a pas vraiment ordonné la fermeture du centre de rétention administrative de Vincennes, mais il a interdit au préfet d'enfermer de nouvelles personnes dans ce centre pendant 15 jours. Plus, il l'a obligé à faire sortir les personnes qui sont atteintes de Covid-19. Mais ça fait pas non plus que les 47 personnes vont sortir, parce que ils demandent en fait la sortie que des personnes qui ont été dépistées, donc aujourd'hui je crois qu'il y en a une ou deux, pas plus. Bon, en attendant, c'est déjà une victoire, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui vont être enfermées dans ce centre de rétention administrative à Vincennes pendant 2 semaines, Et aussi dans la motivation du jugement, le tribunal administratif de Paris a envoyé des petits taquets au préfet de police, et ça fait toujours du bien, comme il dit que l'utilité du maintien du centre de rétention, reste très marginale compte tenu du ralentissement des procédures d'éloignement. Mais il dit aussi que le préfet de police, en maintenant ouvert ce centre de rétention administrative, entretient le foyer de contamination. Il met donc en péril la santé de la population en général et méconnaît aussi son obligation de veiller à la santé des personnes retenues et aussi à leur garantir un accès aux soins. Donc il constate une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie par le préfet de police de Paris. C'est pas souvent qu'on a des bonnes nouvelles comme ça, mais on peut toujours les dire. Et vite fait aussi au centre de rétention du Ménil à Melo, là ça bouge pas dans les tribunaux mais directement dans le centre, avec une révolte samedi dernier. Il reste 50 personnes qui sont enfermées au Ménil à Melo. Et pour fermer le centre, en fait, on ne faudra pas attendre quoi que ce soit du juge. Les incendies successifs du CRA de Vincennes en 2008, 2016, 2017, 2020 ont l'air beaucoup plus efficaces.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc aujourd'hui dans la rubrique nucléaire, on va vous parler d'incendie, puisque ça ne vous aura pas échappé. Il y a des gros incendies en Ukraine depuis 2 semaines et ça a commencé le week-end du 4 avril dans la région de, devinez où, Tchernobyl. Alors on connaît très bien ce nom puisque bah, c'est devenu une super série, mais c'est surtout un énorme accident, un des plus connus. Donc voilà, et on peut dire qu'ils ont un peu allumé les bougies en avance là-bas, puisque bah, Tchernobyl, c'était le 26 avril, donc voilà, un petit peu en avance.
C'est quoi tous ces trucs qui clignotent ?
Alors, c'est le plus grave incendie survenu dans les forêts avoisinantes depuis la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986. Le plus grave, mais malheureusement pas le seul. Il y en a d'autres qui sont déjà arrivés en 2015, en 2010, en 2008, en 2002, en 1992. Pour l'instant, on a plus de 30 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée, avec la conséquence fâcheuse, en plus de tous les dégâts causés par les feux de forêt classiques, de réinjecter dans l'air ambiant les radioéléments stockés dans le sol et la végétation.
Et alors ce lundi 13 avril 2020, donc, les flammes de cet incendie d'origine vraisemblablement criminelle, donc puisque c'est un individu qui jouait à mettre le feu aux herbes, n'était plus qu'à quelques centaines de mètres du lieu de la catastrophe nucléaire.
Et du coup, si tu veux jouer avec de l'herbe, essaye donc de la fumer plutôt que de la cramer, ça te calmera et tu feras moins de dégâts.
Et puis évidemment, les pompiers en lutte avec les flammes ont rencontré de grandes difficultés. Ils ne pouvaient pas intervenir correctement en raison de la contamination radioactive du site. Par exemple, creuser des tranchées dans le sol très radioactif pour circonscrire l'incendie était très risqué pour eux.
Des risques en plus, du coup, pour un métier qui est déjà vachement risqué. Mardi, donc le 14 avril, la pluie est arrivée et la nature a aidé les pompiers à éteindre le principal foyer. Mais jeudi, la situation s'est de nouveau dégradée, le vent s'en est mêlé et ça a réactivé toute une série d'incendies dans des secteurs forestiers très contaminés par les retombées de Tchernobyl. Il y a aussi 2 autres foyers qui sont réactivés à 2 et 3 km de la centrale. Depuis, il y a eu des signes d'amélioration, les incendies les plus proches sont apparemment résorbés.
Et la ville abandonnée de Pripyat a déjà été touchée par cet incendie. Une radioactivité 16 fois supérieure à ce qui est mesuré là-bas a été constatée. Ces incendies ont entraîné une augmentation de 700 fois la concentration en césium-137 dans l'air de la ville de Kiev, située à plus de 100 km au sud de la centrale de Tchernobyl. Des cendres emportées par les vents rendent l'air très poussiéreux, mais aucune mesure n'est prise pour protéger les populations là-bas, même dans les villages les plus proches de la zone doublement sinistrée.
Alors, quelles conséquences pour l'ailleurs ? À qui peut-on se fier ? Est-ce que c'est au même que ceux qui nous ont affirmé il y a 36 ans que le nuage s'était arrêté à la frontière ?
Ce nuage-là ne s'arrêtera pas à la frontière.
En ce qui concerne l'impact sur le territoire français, la CRIRAD, qui est un collectif basé à Valence, donc CRIRAD qui veut dire Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, qui d'ailleurs s'est créée au moment de la catastrophe de Tchernobyl, donc la CRIRAD a relevé la balise de surveillance de la radioactivité atmosphérique qu'ils ont à Montélimar, dans la Drôme, et donc leurs mesures ont confirmé que du 3 au 10 avril, l'activité de césium-137 dans l'air ambiant est restée faible, très faible, en dessous des limites de détection. Idem pour la balise de Romans-sur-Isère, toujours dans la Drôme. Donc la CRIRAD sont sur le feu depuis le début et suivent, comment on pourrait dire, et suivent attentivement l'évolution de la situation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site crirad.org et pas besoin d'être un expert en physique, c'est bien expliqué. Et ils ont même fait une petite vidéo sur toutes ces histoires d'incendie.
Alors c'est vrai qu'en termes de sources d'informations en nucléaire, vaut mieux faire gaffe. Et d'ailleurs, une belle illustration de la transparence dans le nucléaire qui est si souvent mise en avant par EDF, Orano et consorts, c'est par exemple l'incendie qui a eu le week-end dernier à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, qui est donc en région Centre-Val-de-Loire. Un feu d'hydrogène sur le parc à gaz, à l'extérieur, juste à côté de la salle des machines. Alors bon, ok, c'est une zone non nucléaire, il n'y a pas de truc radioactif à cet endroit-là. Mais il n'y a pas que les risques liés au nucléaire, en fait, dans ces usines. Elles cumulent aussi tous les risques classiques de l'industrie. Les incendies, les explosions, etc. En fait, ces usines, elles sont pleines de produits chimiques dangereux et toxiques. Javel, ammoniac, acide chlorhydrique, hydrocarbures, on a des cocktails merveilleux là-bas. Et ces produits, en fait, polluent régulièrement l'environnement et intoxiquent les travailleurs.
Donc voilà, des bouteilles manipulées et un raccord mal fixé et hop, ni une ni deux, l'hydrogène a pris feu et on ne sait d'ailleurs pas trop comment. 15 minutes d'incendie, l'intervention des pompiers a bravé les flammes pour couper l'arrivée de gaz, deux travailleurs sur trois blessés par l'incident, mais pourtant, pas un mot d'EDF au grand public, donc discrètement passé sous silence le feu de gaz hautement explosif.
Alors, en fait, dire qu'EDF n'a rien dit à personne, c'est pas vrai. EDF a informé par mail la préf, les maires du coin et aussi le président de la commission locale d'information de la centrale de Belleville, donc ça s'appelle une CLI. Et une CLI, c'est censé être un espace privilégié de dialogue entre EDF, les habitants du coin et les élus. Mais semblerait que monsieur le président de cette CLI ait lui aussi joué le jeu de la rétention d'informations. Il a gardé ça pour lui et l'a transmis l'info à personne, en bon petit soldat d'EDF et de l'État qu'il est. Et alors comment est-ce que nous on l'a appris ? Eh bien par un transfert de mails envoyés, renvoyés, etc. qui est finalement arrivé à nos petites oreilles. Donc comme quoi, il n'y a que en sortant des cadres préconçus et en passant par la base, par le peuple, qu'on peut avoir une info libre et surtout une info vraie. Une bonne raison de continuer à écouter les Canu Info.
Oui, et pour continuer à vous informer en toute fiabilité sur ce qu'il se passe vraiment, donc gardez les oreilles branchées sur la radio, évidemment, sur le 102.2. Et pour les yeux et un petit tour régulier sur Rébé et sur les pages, notamment du collectif de la CRIRAD dont on parlait tout à l'heure et du réseau Sortir du Nucléaire.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Dans les Canu Info, mais aussi dans plein d'autres médias, se pose la question du sort dans le cadre du confinement des populations les plus exposées, les plus précaires, celles qui sont déjà marginalisées, laissées pour compte. Tandis qu'à Lyon, on inaugure, le préfet et l'ARS inaugurent des centres de desserrement pour 60 personnes en faisant les rigolos devant les journalistes alors qu'il y a 9000 personnes dans la rue à Lyon. Le Portugal y répond de façon pragmatique en régularisant toutes les personnes qui avaient fait la demande de régularisation avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Le Portugal a ainsi demandé la régularisation de tous et toutes les immigrés qui avaient introduit une demande. Ils et elles obtiennent les mêmes droits que les citoyens et citoyennes portugais, tant au niveau de l'accès aux soins que des aides financières. Il leur suffira de produire le document de demande de régularisation pour s'adresser au service public de santé, pour signer un contrat de travail, avoir un compte courant ou demander l'allocation prévue en cas de suspension du contrat de travail ou même l'allocation extraordinaire destinée aux travailleurs et travailleuses qui doivent rester chez elles et eux pour s'occuper de leurs enfants, de leurs parents ou grands-parents. Les permis de séjour qui arrivaient à échéance sont aussi renouvelés automatiquement. Théoriquement, cette mesure prendra fin à la fin du confinement et le processus normal de régularisation devrait reprendre à partir du 1er juillet. Tout n'est pas bien entendu rose au Portugal. Cette mesure vise avant tout à fournir au patronat une main-d'œuvre docile. Les universités sont au bord de la faillite, le système de santé manque de moyens et le code de travail a été cassé par le gouvernement. Ainsi, en 2019, la moitié des embauches se faisaient en CDD et en 2018, la moitié des heures supplémentaires n'ont pas été payées. De même, le gouvernement a suspendu le 18 mars le droit de grève et de manifestation et autorisé la réquisition des salariés. Cette mesure est bien entendu provisoire et ne résoudra pas la question à long terme. Elle ne concerne que les personnes qui ont fait une demande de régularisation, oubliant ainsi toute une partie des personnes sans papier. De même, c'est aussi parce que le système de santé portugais ne comporte pas de système comme l'aide médicale d'État en France, qui permet, certes de manière très restrictive, mais permet quand même un accès aux soins minimal. Dans la même idée, Lisbonne a ainsi suspendu le paiement des loyers dans les HLM de la ville, comme l'avait fait Berlin ou Barcelone, afin d'aider les personnes les plus précaires durant cette crise du coronavirus. Une initiative qui a fait des petits. En France, de nombreux collectifs font la même demande en émettant quelques recommandations. Une tribune est ainsi parue dans différents journaux. Je vais en reprendre ici un peu des bouts parce que j'ai pas forcément souscrit à tout ce qui avait été dit. D'abord, cette mesure s'adresse avant tout du coup à des travailleurs et des travailleuses, donc il faudrait s'assurer qu'elle ne se fasse pas au détriment des conditions de travail, que du coup les personnes puissent quand même travailler de façon sécurisée vis-à-vis du virus. Cette mesure permettrait l'embauche de personnes durant cette période pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre. Pour que l'autorisation de séjour ne soit pas juste un instrument pour déléguer le travail durant la pandémie, il faudrait que le temporaire devienne permanent. En clair, éviter d'envoyer au casse-pipe de surexposer au virus des personnes déjà précarisées et de leur faire faire le sale taf que les Français et Françaises ne veulent plus faire, comme c'est déjà le cas avec les livreurs et livreuses à vélo. C'est pourquoi les signataires de la tribune demandent qu'une carte de résident soit attribué à toutes les personnes migrantes afin de leur permettre d'accéder à un travail et donc à un logement digne. Cette carte doit donner les mêmes droits que toutes les autres personnes ayant un titre de séjour et toutes les personnes qui ont la nationalité française aussi, bien sûr. En Belgique, des associations lancent également un appel demandant la régularisation définitive des étrangers et étrangères présentes dans les pays de l'Union européenne. La régularisation massive collective des sans-papiers et sans-papiers ne génère pas un appel d'air. Les régularisations massives passées n'ont pas entraîné de mouvements migratoires particuliers, car ce sont avant tout les conditions de vie dans les pays d'origine qui déterminent les flux migratoires. Qu'ils soient africains, asiatiques ou latino-américains, la majorité des flux migratoires sont intracontinentaux. Et seule une minorité arrive aux frontières de l'Union européenne, atteinte par les migrants et migrantes au péril de leur vie. Si les dernières régularisations collectives de sans-papiers en France datent de 1981 et 1997, de telles opérations ont régulièrement lieu dans les autres pays, comme en Belgique en 1999, en 2009, en Espagne en 2005 et même en Italie en 2012. Preuve s'il en est que ces régularisations massives sont possibles. Suite à ces régularisations, ces pays ne se sont pas effondrés. Alors peut-être est-ce le moment d'avoir un peu de courage et de reconnaître que notre politique migratoire répressive a des conséquences funestes et dramatiques. Ces politiques, loin de réduire le nombre de personnes qui viennent s'installer en France, les poussent juste à vivre dans des conditions de plus en plus précaires pendant toujours plus de temps. En cette période bizarre, voire troublée, essayons de nous réinventer, de tenter autre chose, peut-être que c'est possible. Rappelons-nous que pierre par pierre et mur par mur, nous détruirons toutes les frontières et que personne n'est illégal.
Thank you. ainsi a écrit Mohamed Karim en janvier, pour la révolte et depuis la révolte. Mohamed Karim, min Babel, bidimaikum al-sakhin, bikalimatikum al-muraiba.
Avec votre sang ardent, avec vos mots redoutables et effroyables, avec vos voix qui crèvent les yeux de ces dieux sourds, avec vos habits inondés de suie et de sang, avec vos torses nus, ainsi vous sortez. Ainsi vous sortez de la bouche de l'imprimante, de mes yeux, de ma tête, de ma langue, de mes doigts qui dévorent ce petit triangle.
Mohamed Karim, pour la révolte et depuis la révolte. Bonsoir chers amis, bonjour camarades. Bonjour à tous, à toutes et tous, auditeurs de Radio Canu. De nouveau, j'ai le plaisir de dire quelques mots et de donner des nouvelles de la révolution irakienne qui est en suspension aujourd'hui en Irak à cause de coronavirus, comme nous tous dans le monde, ou presque. La semaine dernière, j'avais mentionné la nomination de Al-Kadhimi, qui est l'actuel chef de renseignement irakien. Il était nommé comme premier ministre, normalement il a 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine prochaine, pour nommer son cabinet ministériel. Aujourd'hui se passent les tractations entre tous les groupes politiques et les partis. Quand je dis groupes politiques, je parle de parlement. Donc ce sont les partis politiques religieux principalement et quelques autres partis. Donc je rappelle la nomination de Al-Kadhimi, c'était derrière un accord entre les Américains et les Iraniens. Avant, c'était les informations disaient que c'était sans contact direct. Sauf, nous avons des informations aujourd'hui qu'il y avait une visite 2 jours avant la nomination de l'Academy, une visite de Kahani. Kahani, c'est le responsable de brigade de Aqsa dans les milices de Besij et Haris Tawra, donc les milices de gardien de la révolution iranienne. Donc c'est lui qui a remplacé Qassemi, qui a été assassiné par les Américains à Bagdad, si vous vous rappelez, au décembre, qui a donné des épisodes de tirs de roquettes entre les Iraniens et les Américains. Une très haute tension dans tout le Moyen-Orient, et pas uniquement en Irak. Donc l'accord est complet entre le régime américain et le régime iranien sur ce personnage, et ça nous pouvons le constater directement dans le virement de un jour juste avant sa nomination, il y avait son nom qui était proposé, le virement de Muqtada al-Sadr, le chef de Coran al-Sadr, qui est le Coran principal au Parlement irakien et qui est le Coran qui prétend anti-américain. Tous les autres partis politiques chiites, religieux, l'ont accepté. Et les partis sunnites l'ont accepté, le Kurde aussi, en dehors de personnages et des médias. Aujourd'hui, on constate aussi les tractations d'hommes que certains personnages par derrière, il essaye de pousser, lance des appels, la reprise de la révolution, la révolte, de reprendre les rues. Les analystes, les amis journalistes constatent que c'est arrivé uniquement après certaines discussions et tractations pour le poste de ministre, c'est-à-dire pour eux. Et la conclusion, c'est que les personnages politiques, ils poussent à des tremblements dans la rue et une pression politique pour obtenir des gains pendant ces discussions. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Mohamed Kali Maïra, Ikhtitaf.
Enlève-moi de Mohamed Kali.
Yadai, tartajifan. Rijlai, tartajifani aïda. Au sa'at allati tadghitu ala waridi, tushiru lilwahidati layla.
Mes mains tremblent. Mes jambes tremblent aussi. Et la montre qui se serre contre mon artère indique 1h du matin. À droite, des voitures se précipitent de temps à autre. À gauche, des arbres, sans tête. C'est ainsi donc la rue qu'on m'a indiquée.
لم أخبر الشرطة المدينة كما طلبت بحوزتي $5,000 بانتظار اتصالكم بانتظار جسد صديق وهي ترمى من صندوق إحدى السيارات.
Comme vous l'avez exigé, je n'ai pas informé la police. J'ai les $5,000. J'attends votre appel. J'attends de récupérer le corps de mon ami jeté depuis le coffre d'une voiture.
Mohamed Kali, décembre 2019. Quant à la situation du coronavirus, le coronavirus est légèrement en recul en général en Irak. Dans certains départements est largement en recul, au point que, par exemple, dans Sulaymaniyah, en Kurdistan, les autorités, ils ont autorisé le retour au travail, le lever de couvre-feu, au moins d'une manière partielle. Il y a des appels qu'on fasse les mêmes choses dans certains départements en Irak. Les Amides révoltés, les jeunes et les activistes de la révolution irakienne continuent à lancer des appels de prudence et de faire attention pour la santé. En même temps, ils donnent la promesse au régime que dès le lever de confinement, ils seront dans la rue pour continuer à exiger l'application de leurs demandes, c'est-à-dire la décomposition complète de ce régime et l'annulation de tous les accords et le changement de la constitution et les lois. Merci à vous, et j'espère que pour une prochaine fois, j'aurai des meilleures nouvelles qui viennent de l'Irak. Pour le moment, la situation ne donne pas plus d'informations. Bonsoir à toutes et à tous, et encore merci à Radio Canu. كنت لا أحب العراقيين بالفساد. الثورة غيرت كل شيء، فحتى القتلة واللصوص والذيول أصبحت أحبهم. ربما لم نعطهم سابقا ما يكفي من الانتباه، فهم هذه الأيام أكثر بساطة منا ويغرقون بقطرة الشفقة. كرم خنجر Yenaïr, avant.
Avant, je n'aimais pas tous les Irakiens d'une manière égale. La révolution a tout changé. Car même les voleurs, les tueurs et les collabos, je les aime maintenant. Probablement, nous leur avons pas donné suffisamment d'attention. Ces jours-ci, ils sont encore plus humbles que nous. Et ils se noient dans une goutte de pitié.
Kadum Panjar, 24 janvier, Babylon. Et Kadum a écrit pour la paix. Ayyuh as-salam, ya aar al-insani wa wahm, ya haris al-qatil wa sikin, akhrij asnanak min ghayf al-fuqara, arfa' kafak an fam al-harriya, ma adna namluk ما يكفي من الدم لحروبك. كعب خير بابل يناير.
Ô paix, honte de l'humain et de ses illusions. Toi, gardien du tueur et du poignard, sorti croc du pain des pauvres, débâillonne la liberté. Nous n'avons plus assez de sang pour tes guerres.
Kadum Khanjar, le 19 janvier, Babylone.
Marius, comme tu l'auras sans doute compris, ce soir, ACAB veut dire All Campesinas au balcon. Les Canu Info sont finis pour aujourd'hui. On vous laisse avec les sons des balcons et juste après, avec la fameuse émission de musique italienne Noise Pollution.